Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes ce soir réunis pour présenter l'ouvrage de Philippe Maffre, qui est ici présent, évidemment, ce léger opuscule de 400 pages, de 263 photographies, qui vient d'être publié à la veille des fêtes de Noël, comme par hasard, par la Société archéologique de Bordeaux. Alors, pour les quelques-uns qui ne le connaîtraient pas, je me permets de rappeler que Philippe Maffre est, en fin de compte, un Bordelais, en tout cas un Bordelais de cœur, et que c'est un historien de l'art qui a fait ses études à l'Université de Bordeaux, au temps où enseignait de grands maîtres auxquels il est resté fidèle et auxquels il se plaît à rendre hommage très volontiers. Je fais allusion au professeur François-Georges Parizet, tout d'abord, puis également au professeur Roudier. Puis après ses études d'histoire de l'art, Philippe Maffre est entré à l'inventaire général d'Aquitaine, où il est devenu ingénieur et où il a fait toute sa carrière sous la protection et avec l'amitié de notre personnage qui a beaucoup compté dans sa carrière et aussi dans l'histoire de l'art et l'histoire monumentale de Bordeaux, qui était l'ancien et regretté secrétaire général Jean-Claude Lasserre. Voilà. Profitant de ses loisirs, Philippe Maffre a beaucoup travaillé à la préparation d'une thèse de doctorat qu'il a pu soutenir à l'Université de Bordeaux en 1998. Vous vous doutez que c'est un énorme travail qui a été couronné par tous les titres convenables. Et en l'état, comme la plupart de ces monuments d'érudition que sont les thèses, ils ne pouvaient être publiés. Donc, Philippe Maffre s'est remis à l'ouvrage. Il a resserré ses recherches donc, en 400 pages seulement. Et ça donne le résultat. C'est cet ouvrage dont nous allons parler ce soir. Voilà. Alors, l'ouvrage s'appelle « Construire Bordeaux au XVIIIe siècle », les frères Laclotte, architectes en société. Construire Bordeaux au XVIIIe siècle, c'est extrêmement, c'est plus général et ça va peut-être au fond des choses, mais l'évocation des frères Laclotte, c'est le sujet même, c'est le cœur de la recherche. C'est autour de ces frères Laclotte que s'organise cette recherche. Alors ces frères Laclotte, est-ce qu'ils sont connus, est-ce qu'ils sont inconnus? Ça dépend un peu de la culture de chaque Bordelais, mais enfin, quand on est Bordelais, on connaît leur nom. On sait qu'il y a un Étienne Laclotte, parfois on sait qu'il y a plusieurs Laclotte, on confond tout. Ce sont, en gros, des illustres inconnus dont la réputation est incertaine. Et dans ces conditions, on est bien obligé de demander à l'auteur pourquoi, alors qu'il y a des architectes plus brillants, plus connus, je ne parle pas de Victor Louis qui est au sommet et qui a été largement étudié, mais des gens comme Lotte, comme Bonfin, comme Portier, qui fait l'objet d'études parallèles en ce moment, qui peut-être auraient mérité la grande synthèse qui manque encore à leur sujet. Eh bien, Philippe Maffre, ceux qui le connaissent savent qu'il est un petit peu original, Philippe Maffre a préféré s'attaquer aux Laclotte, aux frères Laclotte, donc j'attends de lui qu'il nous dise pourquoi, et puis dans la foulée, qui sont ces frères Laclotte.
Alors pourquoi j'ai choisi les tocards?
Voilà.
Parce que, d'abord j'avais un peu de l'estime pour eux, parce qu'on disait beaucoup de mal de cette famille. On disait un peu n'importe quoi parce que finalement on ne savait pas trop comment cette famille avait été, comment elle fonctionnait, qui était qui a fait quoi, à quelle époque, quand, combien de générations. Alors, il y a un autre Une autre raison principale, c'est que M. Roudier, que le professeur Coustet a cité tout à l'heure, était intéressé par cette famille d'architectes. Il avait l'habitude de... Il disait que c'est des architectes qui avaient peu dessiné, mais qui avaient beaucoup construit. Enfin, il le supputait, en tout cas. Et c'était le contraire des architectes qui avaient beaucoup dessiné et pas construit. Voilà. C'est à ce titre que ce sujet l'intéressait.
Oui, il faut dire qu'il y a deux catégories d'architectes. Ouais. Hein, voilà. Ceux qui bâtissent et ceux qui rêvent. Et qui rêvent... avec des dessins. C'était spécialement le cas à cette époque du XVIIIe oui. siècle dont vous êtes occupé.
Alors, c'est la Clotte, je vais résumer très vite leur parcours, enfin leur arrivée à Bordeaux. Ils arrivent à la fin du XVIIe siècle. Ce sont deux frères. Il y en a un qui est architecte et l'autre qui est vraisemblablement appareilleur, qui s'appelle Gabriel. Le premier frère, je crois qu'il s'appelait Jean, est maître. Il rentre dans la corporation des maîtres bordelais. Son frère, évidemment, n'est pas maître, mais c'est lui qui donne naissance à cette dynastie des La Clotte. Il est introduit, lui aussi, dans le milieu bordelais. Il est marié dans la famille d'un maître maçon très connu qui s'appelait René Roumillac. Dont M. Roudier a publié certains travaux. Et bon, comme c'était l'usage dans toutes les corporations, hein, que les maîtres se mariaient pas entre eux, mais avec des filles de maîtres. À l'époque, on ne pouvait pas encore se marier.
Voilà.
Tout le monde ne pouvait pas se marier avec n'importe qui. Et de Gabriel est donc né un fils qui s'appelait Jean. Et ce Jean La Clotte, alors il a beaucoup travaillé, mais essentiellement pour le chapitre de la cathédrale de Saint-André, dont il était l'architecte officiel. Alors bon, il a fait des travaux à la cathédrale, bon, de peu d'importance, M. Gardel les avait soulignés dans sa thèse sur la cathédrale de Bordeaux, mais surtout, il réparait, il a reconstruit des maisons, des hôtels, ces maisons qui étaient autour de la cathédrale et dans le quartier de la rue judaïque, qui s'appelle maintenant, je ne sais plus comment, voilà.
C'est comment
Non, Castillon, la rue Castillon et la rue de Chevreuse. Et il a eu un travail très très important. Enfin, il a fait des travaux très importants. Il est devenu sans doute le maître maçon architecte le plus en vue, en tout cas un de ceux qui avait le mieux réussi matériellement. La Clotte travaille entre les années 1715-20 et 1756, je crois que c'est... 1763, c'est la date de sa mort. Et à partir de 1725, naissent des enfants chez Jean. Et donc c'est la génération dont il est parlé dans l'ouvrage. Il s'agit de d'Étienne, qui est l'aîné, de Michel, Jean. Ils naissent tous entre 25 et 30. Et ils ont un dernier frère. Enfin, je ne parle que des enfants vivants, bien sûr. Et ils ont un dernier frère qui s'appelle Pierre, et qui lui n'est pas maître maçon. Les trois précédents l'étant, lui, il étudie la profession de ce qui était une profession très importante de marchand de bois. Et il sera marchand de bois toute sa vie. D'ailleurs, il va participer à des spéculations. Et évidemment, il travaille avec ses frères dans des charpentes, des parquets, du bois d'œuvre pour les huisseries, bon, tout ce que vous pouvez imaginer.
Bon, alors pour résumer, la première génération, c'est finalement la première moitié du siècle.
Oui. Hein,
et la deuxième génération, celle qui nous intéresse spécialement, oui, la seconde moitié, en gros, hein, pour garder quelques idées simples en tête. Alors, ces trois frères, donc, est-ce qu'on les distingue les uns des autres? Pourquoi on les étudie ensemble?
On les étudie ensemble parce qu'ils ont travaillé ensemble. D'où le titre. Ils ont travaillé en société. C'est leur père qui les a, par testament, qui les a obligés à s'associer en société. D'ailleurs, l'acte de fondation de la société a été signé le lendemain de la signature du testament de Jean Laclotte, père. J'ai bien sûr le même notaire, bon, ça c'est un détail, mais c'est vraiment à l'initiative du père qu'a été fondée la première société Laclotte. Mais alors, elle n'a pas duré très très longtemps, enfin, elle a duré une dizaine d'années, je crois que la première dissolution c'est en 1772, parce que l'un des frères, Michel, là, celui qui était celui du milieu, d'abord n'a jamais été maître. Parce qu'il a refusé, il était en avance sur son temps, il refusait le système corporatiste. Et il disait, moi je suis architecte, je ne suis pas maître maçon et je n'ai pas de compte à rendre à une corporation. Ceci dit, évidemment, ce genre d'attitude lui interdisait de travailler en tant que maître, enfin en tant qu'architecte.
En tant que maître ou en tant qu'architecte?
En tant que maître et architecte.
Ah bon? C'est-à-dire ne pouvant travailler comme maître et n'ayant pas de travail comme architecte, il ne travaillait pas.
Il travaillait, mais ses frères le protégeaient plus ou moins. Il faisait des chantiers sous le prête-nom en fait de ses frères.
Alors on les distingue, les trois frères, on les distingue pas malgré le travail en société.
Alors les personnalités, c'est très difficile à cerner. Bon, apparemment, Étienne Laclotte, qui était plutôt la figure dominante là, du trio, c'était quelqu'un d'assez... je crois que c'était quelqu'un de très, très carré, très honnête, vraisemblablement. Mais qui avait le caractère un peu difficile. Hein. Il envoie des commandements à d'autres personnages, en particulier des artisans, oui, des artisans souvent. Alors il s'est fâché, par exemple, avec Monsieur Dumaine, qui était un grand serrurier, avec qui il était très ami. Et il finissait par lui dire que je ne sais plus exactement de quoi il a traité, mais enfin, c'était pas du tout gentil, que ce qu'il faisait, ça valait pas la limaille qui traînait dans son atelier. Enfin, mais il envoyait des sommations comme ça, assez difficiles. Il s'est fâché avec l'hôte, le grand François l'hôte. Et à partir du moment où ils ont eu des mots, après, ils ne le désignaient plus dans les actes ou quand ils lui envoyaient des sommations, ils ne le désignaient plus que sous le titre de Monsieur l'inspecteur des pavés. L'hôte étant ingénieur du bureau des finances, et à ce titre, c'est lui qui donnait les ordonnances d'alignement, les pentes pour les rues, voilà.
Donc Étienne Laclotte, un personnage un peu rugueux.
Oui, il allait un peu au combat, mais il y a des anecdotes où il se rend sur les chantiers pour séparer des compagnons qui se battent. Il avait une santé, j'ai l'impression, assez solide. D'ailleurs, il a vécu jusqu'à pratiquement 90 ans. À la différence de son frère Jean, avec qui il est toujours resté en société. Alors Jean, il avait l'air d'être plus pacifique. Je crois que c'est lui qui... Les quelques dessins qui existent, ils sont plutôt de la main de Jean que de celle d'Étienne. Et il était malade. Et pratiquement les 10 dernières années de sa vie, il est resté chez lui, rue Judaïque. Alors là, ce qui est l'actuelle rue Judaïque, Saint-Seurin. Et quant au dernier, alors lui, il était très...
Michel, c'est le fameux architecte.
Oui, voilà, c'est l'architecte qui n'était pas architecte et qui n'était pas maître maçon. Alors, je pense que lui était... Quelque part, il devait être un peu snob, je crois. Parce qu'il a pris son indépendance très vite, s'est marié avec sa cousine Germaine, qui était la fille d'un maître maçon aussi très connu, qui s'appelait Étienne Dardan, et qui était le parrain d'Étienne Laclotte. Et il s'est installé assez vite sur un grand pied. Il a acheté très vite une maison de campagne pour ressembler un peu aux négociants, aux grands notables bordelais. Et puis, bon, rien n'a marché. En fait, il est mort à peu près ruiné, alors que ses frères sont morts plutôt dans l'aisance, je le rappelais. Ils avaient une fortune évaluée à peu près à un million de...
Chacun d'eux
un million de livres, ce qui est tout à fait considérable.
Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? On les voit maintenant à peu près... Une question, on les connaît sans les connaître, c'est vous qui nous les faites découvrir. Comment vous avez... Où vous avez découvert ça? Comment vous avez travaillé? J'imagine comme tous les historiens,
oui.
Mais un petit mot quand même sur la façon dont se déroule ce travail de recherche à partir pratiquement de rien, à partir de on dit, de souvenirs, de quelques textes dans les ouvrages, et vous peu à peu cerner des personnalités, tant bien que mal, mais que vous arrivez à trouver, qui n'est pas si mal que ça du tout, où le trouvez-vous et comment vous faites?
Alors, je ne fais plus, maintenant.
Oui.
Je me suis vidé. Écoutez, il y avait des attributions. Il y avait quelques attributions. Il y avait eu quelques travaux sur des maisons, des Laclotte. Alors, les plus connus, évidemment, étaient les maisons de ce qu'on appelle à Bordeaux le pavé des Chartrons, c'est-à-dire la partie...
Nord du cours Xavier Arnauzan.
La partie nord du cours Xavier Arnauzan, mais entre la rue Notre-Dame et le cours le cours de Verdun, actuel cours de Verdun. Il y avait des articles qui avaient été écrits... Également, il y a des attributions qui étaient fausses, souvent, en particulier celle de l'église de Cantenac. Il y avait des pistes un peu maigres, mais bon, par analogie...
La Bottière.
Oui, la Bottière qui était attribuée depuis très longtemps, mais des travaux qui ont été réalisés dans les années 60 par M. Mastorakis, je crois.
Ah oui.
Ou Duru. Non, c'est Monsieur Duru. Par Monsieur Duru.
Architecte des bâtiments de France.
Oui, architecte des bâtiments de France. Ont entraîné le démontage du porche de la Bottière. Et sous une des colonnes du porche, la colonne de droite, on l'a remis, se trouvait une plaque de cuivre qui confirmait une plaque de bronze, pardon, qui confirmait cette attribution. Alors à partir de là, par analogie avec des maisons en ville, j'ai remonté par les titres de propriété sur certaines maisons, et puis de toute façon systématiquement, j'ai fait tout le pour ceux qui fréquentent des archives. Ce qu'il y en a ici, j'ai lu tous
les actes notariés.
Non, pas tous les actes, mais j'ai lu toutes les tables du contrôle des actes.
D'accord.
Et alors, je dis, s'il y a de jeunes chercheurs qui s'apprêtent à exercer leur talent de la même manière, il faut pas qu'ils prennent un architecte dont le nom commence par L ou M, parce que ce sont les... oui, ce sont les... Il vaut mieux trouver X ou Y. Parce que là, la lecture des tables est très très rapide, alors que L et M, c'est vraiment... Et D, c'est ce qu'il y a de plus épouvantable. Mais j'ai aussi essentiellement... tous les actes d'achat des terrains et de construction de maisons que j'ai trouvés, c'est essentiellement par la lecture du contrôle des actes.
Très bien. Alors, on revient à leur société. Ils travaillent en société. Est-ce que c'est fréquent? Et non, bon, voilà la réponse. Ce n'est pas fréquent. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, travailler en société? Ça correspond à quoi? Qui fait quoi dans la société? Comment il finance chacun? Qui se répartit les bénéfices? Quel est le rôle de... Voilà, une société, ils sont deux, ils sont trois, alors, ils ont chacun leur rôle. Comment ça fonctionne?
Oui, alors la société... Elle
dans la mesure où vous venez de dire, d'affirmer que ce n'est pas habituel.
Non. Non, non, il y a des actes de constitution de société, je ne me souviens plus dans quelle sous-série de la série B, mais en général, ça concerne essentiellement des sociétés de commerce, quelques très très rares sociétés, bon, c'est pas encore de l'industrie, mais des fabriques, ce qu'on appelait des fabriques, comme la Incerato, non pas la Incerato, celui d'avant. 18e. Verneuil.
Oui, Verneuil.
Verneuil, Vanier, ça y est. Hein? Non, Hustin.
Ah oui, il travaille tout seul. Mm.
Mais chez les architectes, c'est le seul exemple. Alors, cette société, je l'ai dit tout à l'heure, elle a un peu varié parce qu'elle a duré jusqu'en 72 entre les deux frères. Après, ils sont venus s'agréger, si on peut dire, des membres extérieurs dont les plus connus sont les frères Despujol. Qui ont essentiellement travaillé à la spéculation, à l'ouverture du lotissement des Hustin, justement, et principalement de la rue Victor Américaine. Mais alors le principe de leur société, en tout cas, c'était de tout mettre en commun.
Ça veut dire quoi
l'argent, le matériel pour les chantiers, les matériaux de construction, les chars, les bêtes, tout était partagé. Et les bénéfices aussi.
Et les bénéfices aussi.
Mais très vite, la société a dépassé parce que les maîtres maçons, c'était des artisans, en fait. Hein. La corporation travaillait exactement sur le modèle de toutes les corporations d'artisans et leur mode de fonctionnement, c'était vraiment de l'artisanat. Bon, très vite, les Laclotte ont dépassé ce stade parce qu'ils ont eu beaucoup de chantiers, beaucoup de succès, ils avaient beaucoup de compagnons. Enfin, c'était une époque où les compagnons, ce n'était pas un problème. On pouvait quand il n'y avait pas de travail,
on les licenciait.
On les renvoyait. Mais enfin, c'était habituel parce que, de toute façon, l'hiver, ils ne travaillaient pas. Il y avait des dates auxquelles étaient interdites les activités, pendant lesquelles étaient interdites les activités du bâtiment. Donc, ce n'était pas quelque chose de choquant de renvoyer les compagnons quand il n'y avait pas de travail. Mais. Ils ont eu, je pense, la chance très vite de trouver de l'argent.
D'accord. Bon.
De trouver de l'argent en spéculant, mais pas tellement pour leur propre compte, mais pour le compte de gros clients, comme en particulier Mitchell, Dumas.
Alors, on va y venir, mais moi, je ne comprends rien. Ils spéculent, mais qu'est-ce que ça veut dire quand on est maître maçon ou architecte à Bordeaux au XVIIIe siècle? Qu'est-ce que c'est la spéculation d'un architecte?
Ils stockent des terrains.
D'accord. Ils achètent des terrains. Ils les mettent en réserve.
Qu'ils mettent éventuellement en réserve. Ouais. Ils en ont vraiment beaucoup. Ils en ont beaucoup acheté dans le quartier Saint-Seurin. Et ils revendent, quand ils trouvent des clients, ces maisons. Et ils construisent, ils proposent évidemment de construire des maisons avec le terrain. Et ça marche bien.
Dont la plus-value vient de la construction, de la revente. Ouais. Construire.
Oui, et souvent ils font des affaires assez lucratives parce que comme ils sont les chapitres, je l'ai dit tout à l'heure pour le chapitre de Saint-André, ils sont les architectes du chapitre de Saint-André, mais ils sont aussi les architectes du chapitre de Saint-Seurin, charge qu'ils ont hérité de cet Étienne Dardan dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était leur oncle. Et à ce titre, tout le, non, ils ont loti quand même enfin une très très grande partie de ce qui est l'actuel quartier Saint-Seurin, depuis les environs de la collégiale jusque, jusqu'au Chartrand, en faisant, en sautant au-dessus quand même du jardin public. Et au titre de leur bonne relation avec le chapitre de Saint-Seurin, les chanoines leur faisaient remise des lots, ce qu'on appelle les lots et ventes, qui étaient des taxes de, sur les transactions immobilières.
Et oui, donc ils faisaient bénéficier d'une sorte de marché privilégié. Voilà, voilà, oui. Oui, je comprends.
Mais ils ne faisaient pas payer les travaux chers aux chanoines.
Oui, ça, non, c'était. Ouais. Mais déjà, alors quand même, le succès, c'est d'être à la fois. Comment dire, les architectes du chanoine de Saint-André, de Chanoine, oui. Et aussi de Saint-Seurin. Ça, oui. C'est un tour de force, non ?
Oui, non, mais les rapports entre les chapitres étaient relativement. D'ailleurs, il y avait des chanoines qui. Enfin, au XVIIIe siècle, il y avait des chanoines qui appartenaient aux deux chapitres.
Ah, d'accord. Très bien.
Bon, c'était alors, assez fréquent.
Je voulais vous demander pour qui maintenant. Ils construisent en société. Vous venez, dans un premier temps, de répondre à une partie de ma question. Ils construisent donc pour les grandes communautés religieuses, oui, de Bordeaux, en particulier, principalement pour le chapitre de Saint-André, le chapitre de Saint-Seurin, qui sont évidemment grands propriétaires et, oui, qui valorisent leur terrain en les bâtissant.
Tout à fait.
Et après, alors.
Et après ils travaillent encore pour les robes, pratiquement.
Ah oui, il faut me les dire maintenant.
Pratiquement tout ce qui porte des robes, oui, c'est-à-dire les religieux
et les robins.
Et ils ont beaucoup travaillé pour les hôpitaux, en particulier pour l'hôpital de la Manufacture, mais aussi l'hôpital Saint-André. Pour l'hôpital des Incurables, ils ont travaillé pour le collège de Guyenne, il y a des établissements d'enseignement, je veux dire, également pour le collège de Guyenne, pour, écoutez, je ne me souviens plus, il faudra le lire.
Il faut quand même nous donner envie de le lire, dites-nous des choses.
Non, mais ils ont travaillé pour Pratnaud, mais oui, c'est ça, tous les établissements d'enseignement de Bordeaux. D'accord. Et pour les et surtout, ça a été un des très gros clients et ça a été à l'origine d'une spéculation assez, d'une spéculation, d'un lotissement assez important. Ils ont travaillé pour le séminaire des ordinants,
ah oui, des ordinants,
ou le séminaire de la mission. D'accord. D'abord, ils ont commencé par l'agrandir.
Où c'est, dites-nous.
Le séminaire des.
C'est l'emplacement, en gros, de l'ancienne poste.
Hein, oui, c'est ça.
Pour simplifier.
C'était entre la rue judaïque et
la rue du Palais Gallien.
La rue judaïque, la rue du Palais Gallien et la rue qui est derrière. Voilà. La rue Roland non, c'est la rue Castéja, c'est là. Oui, je ne sais pas où elle change de nom. Alors, la rue Castéja, oui. Elle existe toujours, la façade. Elle est en arrière des maisons qui font façade sur le côté droit de la rue judaïque.
Au fond de la cour.
Voilà, il y a une grande entrée. Et ceux qui ont eu la curiosité de passer dans ce passage, de regarder au fond de ce passage, ont pu voir un édifice énorme qui ressemble à un séminaire. Un peu.
C'est austère, hein.
Oui, c'est très très austère, mais c'était pas fait pour faire joli, hein. C'était fait pour l'enseignement et pour financer leur agrandissement d'établissement. Les pères de la mission, qui étaient propriétaires d'ailleurs de la mission Aubryon, la clôture y ont travaillé, mais l'actuel édifice a été construit au XIXe siècle, mais pour financer donc leurs travaux, les pères de la mission ont fait construire le lotissement donc dont je vous parlais, ces maisons à balcon continu qui se trouvent à l'entrée de la rue judaïque.
Oui, donc en façade de leur, en somme, en façade de leur établissement.
En façade de leur établissement.
Je comprends. Et alors, oui. Pardon. Non, c'est pour avancer un peu, parce que oui, oui. 400 pages, il y a tellement à dire, il faut... Hein. Bon, vous venez de nous parler. Bon, ils ont une clientèle privilégiée, qui sont les collectivités oui. religieuses ou proches. Et le bon bourgeois, alors les particuliers
Alors les particuliers ne sont pas oubliés. D'abord, il y a tous ces, disons, petits particuliers qui, oui. qui construisent ces maisons.
Ah oui, pardonnez-moi, ça m'a beaucoup intéressé, parce que en vous disant les particuliers, je pensais que vous alliez enchaîner immédiatement sur les grands noms, non. les grands propriétaires que j'attendais. Et puis, vous venez de prendre un biais qui est vraiment intéressant. Et une vraie découverte, c'est, et vous allez nous en parler, toutes ces commandes modestes pour des artisans. Oui. Je ne dis pas pour des pauvres, s'ils étaient pauvres, ils n'auraient pas fait bâtir, mais pour des gens qui vraiment étaient sans fortune, qui avaient un peu de biens et qui voulaient se loger, tout simplement. Et alors là, vraiment, c'est, me semble-t-il, une des choses qui peut apparaître secondaire, parce que ce ne sont pas des constructions monumentales, mais en même temps, c'est une documentation très nouvelle, me semble-t-il, et exceptionnelle sur cet habitat du premier niveau, en quelque sorte, de la société, n'est-ce pas, qui habite dans ces murs. Oui, Alors, un mot là-dessus, je trouve que ça serait très bien.
Ce sont souvent des artisans, mais pas oui. des maîtres, hein, souvent des compagnons. Mais par contre, ils devaient se méfier de la retraite, parce qu'il y a des maîtres qui faisaient construire des maisons pour les louer. Parce qu'il faut savoir quand même que malgré le système de solidarité qui marchait plus ou moins bien des corporations, dans en général, les maîtres comme les compagnons d'ailleurs étaient obligés de travailler jusqu'à la fin de leur vie. Mais par contre, s'ils avaient un accident, s'ils étaient malades, voilà.
Et là, la corporation était fini.
Oui, théoriquement, mais d'accord. Vous avez lu la thèse de Bernard Gallinato qui explique qu'il y a une profonde crise quand même du fonctionnement des corporations. Et alors c'était un peu, pas l'assurance vie, mais l'assurance retraite. Mais il y avait aussi beaucoup de compagnons qui se faisaient construire des petites, ce qu'on appelait des petites maisons, quoi, des
Est-ce qu'on Alors, il y a beaucoup d'échoppes.
Oui.
Alors, c'était comment ces échoppes, ces premières générations d'échoppes, l'échoppe avant l'échoppe.
Alors, l'échoppe, c'était une toute petite maison, mais qui avait en général, elle avait trois travées. Elle était en pierre, oui. Elle était en pierre, et puis elle était solide, puisqu'on a pu toutes les exaucer. Elles avaient la particularité d'avoir toujours un jardin.
D'accord. Ouais.
Un jardin qui n'était pas d'ailleurs un jardin d'agrément, c'était un jardin pour. Pour avoir un petit potager. Mais elles avaient donc les plus simples. On avait une chambre sur le côté. Enfin, on rentrait dans une pièce dans laquelle il y avait ce qu'on appelait une rochelle. Qui était en charpente. À laquelle, en général, ça servait de chambre. On y accédait par une échelle meunière. Et en face de la porte, il y a deux fenêtres pour éclairer ces deux salles.
Il n'y avait pas de couloir, donc. Hein, c'est pas encore l'échoppe.
Pour les plus simples, on rentrait par une porte. Il y avait une autre porte en face qui accédait pour accéder au jardin. Mais pour les plus évolués, il y avait un couloir.
D'accord.
Avec un couloir et une porte qui donnait dans la grande pièce. Mais bon, alors ça c'était le premier niveau des clients. Après, il y avait des maîtres aussi qui ont fait construire des maisons un peu plus importantes, à étage, 4 ou 5 pièces, éventuellement ce qu'on appelait un galetas, pour mettre un domestique. Et puis après, il y avait des grandes maisons. Oui, mais M. Dumaine, lui, il était très riche. Il avait une très, très grande... Il avait une très très grande maison, mais il y avait des maisons qui sont des qui pouvaient être transformées en maisons de rapport, comme je pense en particulier à la rue Victoire américaine, où il y avait des maisons particulières et
d'un
des
côté,
et des maisons non c'était assez mélangé et des maisons de rapport, mais c'est aussi le cas des maisons de la rue judaïque. Où il y avait des maisons qui pouvaient être proposées en appartement ou habitées par une seule personne ou une seule famille. Alors au-dessus de ça, on arrive à la limite des alors à Bordeaux, on appelle ça des hôtels, mais en réalité, ce sont des maisons, des grandes maisons. Je pense en particulier aux maisons de négociants. Où les fonctions de commerce, stockage, habitation étaient réunies dans un même immeuble. Alors c'est le cas évidemment c'est le cas des célèbres maisons du cours Xavier Arnauzan. Hein,
ou des quais aussi.
Les maisons des quais. Alors les maisons des quais, c'était un cas particulier aussi. C'est un cas très très intéressant parce que d'abord c'était des très grosses maisons qui étaient suivies de très 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 grands entrepôts. Oui. C'était des maisons qui coûtaient très très cher. C'était très très. Et oui, qui pouvaient atteindre 100, 150 000 livres. Et qui étaient vendues avec l'espace qui se trouvait devant.
Ah oui, jusqu'au quai.
Devant la maison, jusqu'à la basse mer.
Oui,
jusqu'à. Il n'y avait pas de quai.
Jusqu'à la rivière.
Voilà, jusqu'à la rivière à basse mer. Ouais. Moins évidemment le passage, ce qu'on appelait le chemin du roi. Et là, quand les entrepôts étaient pleins, on pouvait stocker sur le quai, sur la grève. C'est pour ça que ces maisons étaient très chères. Et à côté de ça, donc il y avait bien sûr les hôtels. Alors les hôtels, hôtels particuliers.
Excusez-moi, je vous coupe. Ouais. Non, mais on va y venir. Si vous voulez, pour souligner. Vous parlez de ce que vous avez trouvé comme la chose la plus naturelle. Ça va de soi. Il y avait ça, il y avait ça. Voilà. Mais tout ce que vous venez de dire, il faut se rendre compte que ce sont de véritables trouvailles. C'est extrêmement original parce que l'architecture bordelaise a été bien étudiée depuis longtemps par des gens extrêmement compétents, très savants. Mais jusqu'à présent, on s'est quand même intéressé pratiquement qu'aux édifices publics. Il faut dire que c'est ceux qui ont souvent une documentation. Hein. L'habitat bordelais, celui qui fait ce fameux Bordeaux 18e, tellement homogène, hein, qui a cette personnalité à peu près, enfin, vraiment assez presque unique en France, de ces ensembles immenses de maisons 18e, ça avait quand même échappé, me semble-t-il, à la recherche. On s'est occupé et des grands architectes et des grands édifices. Alors évidemment, ce qu'on appelle les hôtels particuliers. Mais toute cette hiérarchie de construction, depuis la plus modeste, depuis l'homme qui a le propriétaire qui a la fortune la plus modeste ou la plus précaire, jusque effectivement à ces hôtels de négoce qui étaient les mieux connus. On n'en avait quand même pas vraiment une idée. Et là, me semble-t-il, vous établissez pour la première fois une typologie de tout l'habitat bordelais depuis l'hôtel La Bottière, dont on reparlera, depuis presque le château urbain ou depuis l'hôtel de la Lande, jusqu'à ces premières échoppes. Et ça, c'est vraiment très, très nouveau. Et ça, évidemment, pour l'histoire de l'architecture, mais je pense aussi pour l'histoire sociale bordelaise, ça dépasse le cadre de la recherche architecturale et de la recherche d'histoire de l'art. Je voulais y insister parce que la façon dont vous racontez ça est tellement simple et tellement naturelle qu'on n'imagine pas à quel point vous apportez du nouveau. Voilà. Alors, on va parler après de l'erreur de l'architecture. Mais avant, un petit mot aussi, un petit mot ou plusieurs mots, autant que vous voudrez, sur les lotissements, parce que cette activité architecturale, elle se développe dans le cadre d'un, comment dire, d'une extension, hein, d'une extension de la ville dans des quartiers nouveaux qui étaient aux portes, qui étaient les quartiers ruraux, semi-ruraux, et qui tout d'un coup vont être urbanisés. Et je pense que nos sociétés de spéculateurs La Clotte ont joué dans ce domaine un rôle que vous avez souligné et qui, après tout ce que vous venez d'apporter pour l'histoire de l'architecture civile, apporte également des renseignements peut-être moins originaux, mais en tout cas très précieux par leur précision sur ces lotissements. Allez-y.
Ouais, lotissements.
Où sont ces lotissements? Quels sont-ils? Quels sont les principaux? Voilà.
Oui,
en gros, bien sûr.
En gros, en très gros.
En très gros.
Alors les premiers lotissements auxquels se sont essayés le premier lotissement auxquels se sont essayés les La Clotte, c'est le lotissement la partie orientale du lotissement du cours Xavier Nozon, enfin du pavé des Chartons, qui était
la propriété
du conseiller Dumas
de La Roque.
Dumas de La Roque, oui. Puis est venu s'agréger ou se greffer un lotissement qui prolonge celui des Dumas, qui appartenait à un gentilhomme verrier irlandais qui était Patrice Mitchell.
D'accord.
Et alors ce lotissement a pris une ampleur extraordinaire, puisqu'il est allé jusqu'à l'actuelle petite place. Il est allé jusqu'à l'actuelle petite place Mitchell et occupé les deux côtés du cours Saint-André, enfin du cours de Verdun, depuis l'extrémité du jardin public jusqu'à peu près à la place, je ne sais plus comment elle s'appelle.
Bon disons, voilà un premier lotissement. Hein, au Chartron,
voilà.
Et au cœur du Bordeaux, du négoce, hein, de la belle époque.
C'est un lotissement qui a été dessiné.
Oui.
Bon, beaucoup de chantiers ont été faits aussi par les La Clotte, mais ils ont là agi pour le compte de ces deux tiers, donc Dumas de La Roque et Mitchell. Pour leur propre compte, ils n'ont finalement fait que les lotissements qui se trouvent entre à peu près la rue Capdeville.
Vers Terre-Nègre à peu près.
Oui. Hein, oui. Entre la rue Capdeville, Terre-Nègre, la rue Goya, la rue Mondenard, la rue les rues qui suivent,
oui,
jusqu'à l'actuelle rue Turenne. Alors Hustin, oui. Alors Hustin, ils ont agi pour leur propre. Ils ont acheté les terrains à la veuve de Monsieur Hustin, Madame Hainaut, Victoire Hainaut. Et ils l'ont, parce qu'ils s'étaient fait avoir sur le premier lotissement. Ils avaient eu des problèmes avec Hustin, et comme ils tenaient pour le percement de la rue Hustin et de la rue Dumas et de l'impasse Hustin, et comme ils ne voulaient pas que ça se reproduise, ils ont eux-mêmes acheté les terrains et conduit toute l'opération du lotissement et bâti toutes les maisons de la rue Victoire américaine. Mais leur propre lotissement, donc celui de Terre-Nègre, de la rue Paulin, de tout ce quartier, là, ça s'étendait sur des dizaines d'hectares.
Hein. Donc ils ont le lotissement, ça consiste à ouvrir les rues,
ils achètent
mais
les terrains,
pas à bâtir entièrement,
ah,
malgré tout.
Hein, parce en général, que ils bâtissaient les angles,
oui.
Puis après, on remplissait les rues.
D'accord.
Mais ça a pu prendre. Certaines rues, on les a construites, il a fallu 100 ans. Hein. Les La Clotte ne les ont jamais vues terminées. Et puis, c'est une chose dont je n'ai pas parlé ici. Il y a eu des interruptions dans ces, dans ces lotissements, parce que ils ont commencé leur aventure en société au moment de la guerre de 7 ans. Donc il a fallu attendre la fin de la guerre de 7 ans pour que vraiment la machine se mette en marche. Et puis il y a quand même eu l'interruption de la guerre d'indépendance des États-Unis, ce qu'on appelait la guerre d'Amérique. Et à ce moment-là, il y a eu aussi des coups de frein. Bon, pourquoi ? Parce que il y avait moins d'investisseurs. Quand le commerce ne marchait pas à Bordeaux, plus rien ne marchait. Et même pas le vin, parce qu'on était fâchés avec les Anglais. On ne pouvait pas en exporter très, très facilement.
Vous parlez de... Ça me passe par la tête, je n'avais pas prévu, mais vous parlez de ce problème, oui, des interruptions, des crises au moment des guerres. J'ai souvent lu, sous la plume d'historien autorisé, je l'ai repris moi-même, qu'au moment de la Révolution, c'est vrai qu'on constate quand même dans les années 90... beaucoup, beaucoup de constructions, et on dit que la crise, l'incertitude des temps conduit les Bordelais, les capitalistes, ceux qui ont de l'argent, à mettre leur fortune à l'abri en investissant dans la pierre, en bâtissant. Est-ce que vous avez, dans votre recherche, senti ce moment-là où à la fois il y a concomitance entre des temps politiques un peu incertains et une accélération de la construction? Parce que ça paraît un peu bizarre, mais en même temps, l'explication que l'on donnait semblait logique. Vous l'avez confirmé, vous pouvez le confirmer, ou c'est pas si sûr que ça?
Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup d'achats à une période de crise,
entre,
quand même.
En 90, quoi.
Oui, hein, mais là, on achète beaucoup de terrain, mais ça a rarement abouti à des lotissements. Mais je pense qu'aussi...
Il faudrait y aller bien du clergé et qui sont
donc sur le marché, achète, qui sont pas chers, parce qu'il y en a beaucoup. Et à ce moment-là, les gens, ceux qui pouvaient, ont investi, mais la construction, il y a vraiment un coup d'arrêt à la fin de la monarchie. Puis l'argent ne vaut plus rien.
C'est bien pour ça qu'on le met dans la pierre.
Oui. Hein, oui, mais c'était du papier, oui, ça valait pas grand-chose. Mais je crois aussi qu'il y avait de toute façon une crise qui n'était pas uniquement politique. Je crois que dans les années 88-89, il n'y a pas une crise dans l'agriculture un peu?
Non. Bon. Alors,
le recteur Poussou dit que non. Alors, ça doit être vrai.
Disons que c'était une parenthèse à propos de ce problème, de ces investissements dans la pierre qui apparaissent assez importants dans une période, par ailleurs, politiquement incertaine. On ferme cette parenthèse et on pourrait parler maintenant un peu d'architecture.
Oui, pourquoi pas.
C'est-à-dire, ils bâtissent des édifices. Est-ce que ces édifices, ils ont quelque chose de particulier, en qualité ou que sais-je ? Est-ce qu'on reconnaît, par exemple, une maison, la Clotte, et si on la reconnaît, à quoi ? Parce qu'ils ne sont pas les seuls à bâtir, même s'ils bâtissent beaucoup.
Oui.
Est-ce que c'est la Clotte, ou la Clotte, ou les trois, ou la société, est-ce qu'ils ont une façon de construire, un style, des formules architecturales, décoratives, qui leur appartiennent en propre, et qui font que, on reconnaît ces édifices, et que du même coup, dans la mesure où ils ont beaucoup construit, ils ont contribué à donner au Bordeaux du XVIIIe siècle son caractère architectural, ou une partie de son caractère architectural? Voilà la question, alors là, de l'historien de l'art.
Alors oui, on les reconnaît, je vais vous dire pourquoi. Ça n'est pas disons, un style, entre guillemets,
qui oui, est, le style, c'est du temps.
Oui, bon, ça a évolué.
Oui.
Parce qu'on part de maisons. Par exemple, à l'entrée de la rue des Remparts, il y a toute une suite de maisons sur la droite, qui sont des maisons qui pourraient avoir été construites en 1740, qui l'ont été d'ailleurs entre 45, je pense, et 70. C'était un ensemble uniforme. Ça ne paraît plus beaucoup maintenant parce que les maisons ont été modifiées, surtout au rez-de-chaussée, bien sûr. Alors, il y a des boutiques, alors on ne s'en aperçoit pas du tout. Il faut lever le nez pour voir. Mais ce sont des maisons très archaïques. C'est le père qui a commencé, Jean, la Claude Père, qui a commencé à les construire. Alors, il y a encore des couvrements, des baies cintrées. Mais. Ce style, ça continue à fonctionner, y compris dans les maisons de campagne comme le château de, enfin la maison de Piquecaillou, ou le château du Burg, où on retrouve ce même type d'ouverture, ce même genre d'ouverture, mais ça évolue très vite. Alors, sous l'impulsion de qui, ça, on ne peut pas savoir qui a fait quoi, qui a dessiné et à quel moment. Donc, ça évolue très vite, tout à fait au milieu des années 1765. Les Laclotte se mettent à utiliser un répertoire ornemental qu'on appelle dans le goût à la grecque.
C'est un peu timide quand même.
Un peu timide et pas toujours très adroit parce qu'il copie des modèles hein, qui se procurent chez leurs amis les Labotière par exemple qui vendaient des gravures mais enfin tout le monde en vendait des recueils d'ormanistes il y en avait chez tous les marchands d'estampes chez tous les libraires bordelais mais alors ils font par exemple des guirlandes très allongées parce que bon, c'est un ornement dans le goût à la grecque, mais il n'a pas les bonnes proportions. Puis après, ils imaginent de faire des crossettes rentrantes ou des angles rentrants, si vous voulez, pour les chambranles. Et là, ça permet de raccourcir la guirlande et de lui donner, comme dans la maison du Maine, une plus grande correction. Alors tous les ornements à l'antique sont comme ça en fait utilisés, plaqués sur des maisons comme leur père en construisait déjà, mais au lieu d'avoir des baies à couvrement cintrées, ce sont des baies rectangulaires avec chambranle à crossette. Enfin ils en rajoutent un peu. Alors le style la Claude c'est de ces années 70, c'est tout à fait les maisons du pavé des Chartrons. Et on peut très bien trouver des maisons du pavé des Chartrons, on peut très bien les imaginer, et ils en ont construit. Il y a des maisons construites exactement sur le même modèle que celle du Corsia Vernozan, mais avec des balcons sur des consoles au lieu d'être des balcons sur trompe.
Alors là, quand même, vous ouvrez le problème, les Bordelais, leurs balcons sur trompe ondée, en forme tombeau, hein, vous avez relevé dans les textes anciens ce que nous appelons sur trompe, en forme tombeau, c'est-à-dire ventru. Là, vous parlez très, très normalement de quelque chose qui est malgré tout assez caractéristiques du paysage bordelais, parce qu'elles sont évidemment très évidentes au cours des Vernozan par leur continuité, par la programmation qui est réalisée, mais partout en ville, on trouve ces balcons. Bon, alors, tantôt ils construisent là, est-ce qu'ils sont contemporains, les balcons sur trompe et les balcons sur console, c'est-à-dire les balcons droits qui repose sur des consoles. Est-ce que c'est contemporain? Pourquoi? Est-ce qu'on sait pourquoi ils construisent tantôt d'une manière, tantôt d'une autre? L'un c'est une forme moderne, l'autre ça serait une forme plus archaïque. D'où vient la cohabitation quand même assez curieuse de ces deux formules, parce qu'on aurait tendance à croire qu'il y a eu peut-être d'abord les balcons sur trompe, oui, qui sont un peu archaïques, et puis après les balcons sur console, qui sont plus modernes. Alors, moi, je voudrais un peu, voilà, un beau morceau à nous raconter l'histoire des balcons bordelais à travers les constructions des Laclotte.
Alors moi, je pense que la création des balcons, oui. La création des balcons sur trompe, effectivement, est sans doute la plus ancienne. Peut-être attribuable à Michel Laclotte, parce qu'après 1772, ils n'en font vraiment plus du tout, les Laclotte qui travaillent en société. C'est démodé, mais ça n'est pas abandonné. Parce que
par eux.
Par eux ou par les gens qui prolongent leur lotissement. Du cours de Vernozan, par exemple.
Oui, je comprends.
Parce que vous. Là aussi, en levant le nez, on s'aperçoit qu'il y a des. Les façades n'ont pas varié dans le cours de Xavier Arnauzan, mais la serrurerie, alors tout ce qui est balcon,
garde-corps
évolue énormément, et on voit que des garde-corps à dessin tout à fait néoclassiques, même de la veille de la Révolution, cohabitent avec la forme archaïque du balcon sur trompe. Alors ces balcons sur trompe, moi, je ne pense pas qu'ils en soient bien sûr les inventeurs. Il y en avait à Nantes au milieu du XVIIIe siècle, en particulier dans l'île Feydeau, qui sont d'une forme un peu différente. Oui, parce que les angles sont à arête, alors qu'à Bordeaux, les angles sont systématiquement adoucis.
Ils sont parfois superposés aussi à Nantes,
aussi.
Ce qu'on ne voit pas à Bordeaux.
Oui, non, il y a deux étages de trompe. Et... par contre, je pense que les modèles de Bordeaux, ils ont été pris en Saintonge et dans Longoumois.
Et pourquoi ?
Parce qu'il y a des maisons à Saintes et à Angoulême
qui sont chronologiquement antérieures.
Oui, qui sont antérieures.
Sont datées.
J'ai pas fait la recherche, mais elles ont l'air quand même antérieures à celles de Bordeaux. Et les Laclotte connaissaient la Saintonge pour la bonne raison qu'ils y allaient se fournir en pierre.
D'accord.
Donc chercher des pierres de qualité pour certaines maisons, et ils ont construit des maisons en pierre de Saintonge, et on allait les chercher à Taillebourg. Et à Taillebourg, on était à Saintes, évidemment, quand on était à Taillebourg. Non, ils n'ont pas pu ne pas connaître ces maisons. Et les Dardans aussi fréquentaient beaucoup la Saintonge. Et je pense qu'ils ont pu être amenés avec les Dardans à fréquenter cette région avant de commencer à travailler. Parce que, oui, je n'ai pas parlé de leur formation, mais il est vraisemblable qu'au moins... au moins Jean, sans doute Michel, ont été formés chez...
Chez
Dardan. Ouais. Ouais. Ah oui, ils ne sont pas allés à l'Académie.
Ils ne sont pas allés à l'Académie.
Non. Mais voilà pour les balcons. Après, l'évolution du style, on voit bien qu'il y a une très nette différence entre des maisons comme ces maisons à balcon sur trompe et les maisons à balcon continu de la rue judaïque ou de la rue Victor américaine, où là, on est dans une... très très grande sobriété, où on abandonne d'ailleurs petit à petit les ornements dans le goût à la grecque.
Oui, ce sont un peu quand même des immeubles standardisés, non ? C'est pas le lotissement ne conduit-il pas à trouver un type d'habitat standard et bon marché, que l'on répète, oui, comme ça avait été fait par Portier sur les quais de Bordeaux, et comme c'est fait partout où il y a dans le monde entier, où on fait des lotissements, si vous voulez.
Oui, sans doute, oui. Mais même dans les maisons, individuelles, disons, oui, qui sont bâties vers les années 60. 65, je pense à l'hôtel Daujard, ces maisons du début de la rue Fondaudège. Il y a une utilisation très très correcte beaucoup plus correcte qu'au tout début du goût à la grecque, et puis tout de suite après ça va disparaître. Mm-hmm. Au profit donc de choses beaucoup plus rigoureuses, beaucoup plus simples, dans le goût néoclassique. Hein. Mais ceci dit, il n'est pas interdit de penser, et même il faut le penser, que certains propriétaires avaient un goût pour une certaine maison et 20 ans après que ça ne soit plus la mode, demander à ce qu'on construise une maison comme celle-ci, enfin comme celle qu'ils souhaitaient, qu'ils avaient connue 20 ans plus tôt. Et, et c'est pas, moi je crois qu'on néglige beaucoup le rôle des... Enfin, dans cette, en tout cas dans cette architecture... Bon, qui est pas une pas, je veux pas la qualifier de mineure, mais bon, qui n'est pas l'architecture des grands maîtres issus de l'académie, c'est pas du soufflot, je veux dire. Et je pense qu'on néglige beaucoup le rôle des maîtres d'ouvrage.
Oui. Alors, vous parlez d'architecture mineure, moi je parle d'architecture en série un petit peu. Il faut quand même terminer sur des... Il y a quand même des édifices importants. Il y a de beaux édifices. D'abord, je crois qu'il y a des châteaux à la campagne. Et puis même en ville, il y a quelques grands hôtels particuliers. J'étais l'hôtel de la Lande, j'étais la Bottière. Pour finir un peu en beauté, hein, sur des œuvres qui sont plus originales, qui font preuve de créativité, je dirais. Voilà, un mot sur les vrais hôtels particuliers de Bordeaux et les constructions un peu majestueuses, un peu ambitieuses à la campagne.
Alors oui, les hôtels particuliers de Bordeaux, ils sont à peu près connus.
C'était ceux qui étaient le mieux connus.
Voilà.
C'est ceux qui avaient fait l'objet de l'intérêt des historiens de l'architecture avant le travail de Philippe Maffre.
Alors, l'un des plus connus et des plus visités, bien sûr, puisqu'il est ouvert au public, c'est sans doute l'hôtel de la Lande, l'actuel musée des arts décoratifs, qui a été construit pour un opulent parlementaire, qui était le conseiller de Raymond de la Lande. Et alors cet hôtel, il a la particularité, justement, je vous parlais du goût des maîtres d'ouvrage, de ressembler à une... Il a été construit, je ne me souviens plus de la date, mais enfin...
75.
75, par là, oui, en 1775. Et... il ressemble à une maison du XVIIe siècle, comme tout le monde a pu peut encore le remarquer. Alors pourquoi ? Moi j'ai une théorie un peu psychologique. Le conseiller de Raymond de la Lande, c'était un conseiller très riche, mais d'une noblesse un peu fraîche. Et je pense qu'il s'est fait construire l'hôtel particulier qu'aurait pu faire construire son grand-père ou au moins son père.
Il n'y a pas que le psychologique, parce que ce que je crois savoir, c'est que vraiment à ce moment du XVIIIe siècle, le goût néo-XVIIe, néo-mansard, disons, est quand même très prisé dans un certain milieu aristocratique, et par conséquent, la psychologie de Monsieur de la Lande rejoint malgré tout
un
courant architectural de ce moment du XVIIIe siècle, de ces années 70-75, qui est effectivement le néo-mansard, qui évidemment se développe parallèlement avec d'autres formules architecturales.
C'est le moment, c'est dans l'air du temps, c'est le moment où l'hôte se met à remettre des toitures à brisis partout. Toutes les constructions de ces années 75, 80, jusqu'à la Révolution.
Alors un mot sur la Bottière, là, maintenant.
Mais la Bottière, c'est pas un hôtel particulier. La Bottière, c'est une maison de campagne qui appartient à des deux frères, Antoine et Jacques, je crois. Antoine et Jacques La Bottière, qui sont des libraires et surtout des imprimeurs. Ils ont une rente ils sont protestants, mais c'est quand même à eux qu'on a donné les publications. Tous les actes qui sont publiés par le Parlement le sont par les frères La Bottière.
C'est
un peu une rente. Oui. Et ils sont aussi, bien sûr, des esthètes. Et ils avaient à proximité de Bordeaux, donc c'était leur père qui l'avait acheté d'ailleurs, je pense. C'est pas eux qui ont acquis la propriété. Ils l'ont agrandi, donc ils avaient ce qu'on appelait un bourdieu, hein, avec une vigne et des jardins, hein, jardins potagers essentiellement. Le jardin fleuriste était très réduit, et il en existe un plan. Et eux, les frères Labautière ont fait construire cette maison qui s'appelait à l'époque, bon, on l'appelle Labautière de leur nom, mais à l'époque ça s'appelait, comme beaucoup de maisons de campagne, Mon Plaisir, où on cultivait le plaisir de la campagne, du jardin. Alors c'était, et évidemment il y avait quand même une partie en vigne, hein, toujours. Il y a toujours des vignes dans tous les bourdieux, dans toutes les maisons de campagne bordelaises. Bon, mais maintenant c'est complètement urbanisé, enfin le quartier, mais il faut imaginer ça avec un parc, je crois qu'il faisait, enfin le jardin je crois faisait 7 hectares. Donc le reste, je ne sais pas. Et c'était des maisons qui n'étaient pas habitées. Hein. Elles servaient juste de lieu de repos ou de réception, principalement à la belle saison.
Oui. La villégiature.
Il faut imaginer que toutes ces maisons de campagne bordelaises, elles étaient essentiellement fréquentées à l'époque des vendanges. D'ailleurs, c'était très ennuyeux parce que quand les vendanges étaient pour les justiciables, parce que quand les vendanges étaient tardives, les messieurs du Parlement étaient sur leur terre, sur leur bon Dieu, et le justiciable attendait que les vendanges soient finies et que les parlementaires rentrent pour pouvoir obtenir justice. Mais Labautière, c'est une maison de campagne, c'est une très très belle maison de campagne qui a la particularité aussi de servir de catalogue pour les la clotte, parce que si on regarde bien, on s'aperçoit que les ornements des baies, c'est-à-dire les guirlandes, les roses, enfin tout ce qui fait l'ornement des façades, vraiment sont tous différents, enfin sont différents sur les quatre façades. Il y a quatre types de baies, c'est-à-dire un type de baie par façade. Moi je m'en suis aperçu en regardant bien les photos. Mais au premier abord je ne l'avais pas.
La maison a l'air parfaitement homogène. Oui.
Alors bon, c'était leur maison catalogue, un peu. D'ailleurs, quand la fameuse Madame de la Roche est venue visiter Bordeaux, hop, on l'a amenée tout de suite, Étienne Laclotte l'a amenée tout de suite voir la Labautière. Enfin, ils ont construit des châteaux aussi.
Oui, alors un mot, rapidement, parce que après, on me fait signe que...
Oui, le château, c'est la cerise sur le gâteau.
Les châteaux. Alors, est-ce qu'il y a des châteaux de Louis qui sont maintenant des châteaux de Laclotte? Tiens.
Oui, il y a le château de Virazeil, par exemple.
Ben voilà, c'est celui-là.
Alors, le château de Virazeil, Virazeil, c'est une baronnie qui se trouvait à proximité de Marmande. Et le père du président Daujard avait acquis cette baronnie. Le président Daujard étant un client des Laclotte, il y avait son hôtel, un très grand hôtel, à l'entrée de la rue Fondaudège, sur la gauche. C'est la plus grande maison, il doit y avoir 7 pravées, je pense. C'est la plus grande maison de la rue. Là. Et pour le président Daujard, donc à côté d'un tout petit château, de ce qui reste d'un petit château médiéval et agrandi au XVIe siècle, les Laclotte ont bâti un énorme château, et c'est une telle réussite que même M. Pariset l'avait attribué à Victor Louis.
Je m'en souviens. On va conclure sur cette remarque. C'est qu'on a commencé par des architectes que vous avez qualifiés trivialement de tocards. Et puis, on achève par des architectes qui construisent à la campagne d'impressionnants châteaux dont la qualité est telle que, à défaut de documentation qui n'existait pas avant vous, on était capable, de la façon la plus normale, n'est-ce pas, et naturelle du monde, de les attribuer aux meilleurs architectes et aux plus grands de ceux qui ont travaillé à Bordeaux, c'est-à-dire à Victor Louis. Donc, je vous remercie. Un mot de conclusion. Vous êtes rendu compte, j'espère, à travers tout ce que nous a expliqué Philippe Maffre, de l'originalité de son travail, tout ce qu'il apporte de nouveau sur la connaissance du métier d'architecte, du fonctionnement de cette corporation, de l'agrandissement de Bordeaux à travers ses lotissements, de la transformation du paysage bordelais à travers la multiplication de ces maisons qui ont toutes en commun d'avoir été construites sur des dessins venant de la même équipe d'architectes. Nous avons des architectes qui ont vraiment contribué, qui ont joué vraiment un rôle majeur dans la mise en place de ce Bordeaux du XVIIIe siècle dont nous sommes si fiers. Et le volume édité par la Société archéologique rend justice vraiment à votre travail, lui aussi, parce que c'est un beau volume. Je fais la pub maintenant pour le volume, n'est-ce pas ? Il est bien imprimé, il a de belles marges, un beau papier, de belles photographies en couleur. Je vous ai dit, il y a plus de 250 photos, pratiquement tous les édifices dont vous parlez sont à peu près tous photographiés, hein. Plus ces répertoires de décors qui sont particulièrement séduisants. Si vous voulez avoir un catalogue des guirlandes de la Clotte, je crois que c'est à la page 360, vous avez une page entière. La guirlande trop longue, la guirlande de bonne proportion. Il y a tout là-dedans. Il y a un index à la fin.
Oui.
Il y a des plans. Autrement dit, l'ouvrage, j'espère que vous en êtes satisfait dans la mesure où il répond, me semble-t-il, à la qualité, vraiment à l'originalité et à la qualité de votre recherche. Votre travail, c'est un chapitre de l'histoire de Bordeaux au XVIIIe siècle qui était à écrire et qui comble véritablement une lacune. Donc, on vous félicite et on espère que les Bordelais sauront rendre justice à votre travail et en profiteront, et que grâce à vous, notre connaissance de ce Bordeaux 18e sera moins fondée sur des on-dit, des approximations, mais que véritablement on a là de quoi alimenter notre connaissance et notre goût pour notre Bordeaux du XVIIIe siècle.
Il n'y en a que la moitié, là.
Alors, la seconde moitié, vous trouverez peut-être un autre éditeur.
Mais il faut des lecteurs costauds. Voilà.
Non, mais c'est précisément agréable à lire. Je signale que Philippe Maffre écrit un français simple, clair, tel que ses maîtres l'ont appris à le faire.